Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Chris au micro. On est ensemble sur Dynamique Radio pour le 5e épisode de Déshabillez-moi, la petite chronique qui nous déshabille et qui scrute à la loupe nos petites et nos grandes manies vestimentaires. Mais que se cache-t-il dans nos armoires? Le vêtement, vous allez voir, c'est toute une histoire.
Déshabillez-moi.
Vous savez quoi? J'ai le gène de la farfouille depuis toujours et j'adore dénicher des pépites endormies sur un cintre ou au fond d'une corbeille. Alors quand la ressourcerie créative a ouvert sa boutique, Porte d'Orléans, je me suis frotté les mains en mode youpi. Je vais pouvoir pratiquer mon sport favori, la chine. Mais non, pas celle-là. Je veux dire que je vais pouvoir chiner parmi les objets ou les vêtements des autres et me projeter à bracadabra dans leur vie en écoutant leurs disques, en lisant leurs livres, en m'éclairant avec leurs lampes et surtout en testant leur style vestimentaire. À 1 ou 2 euros, l'expérience, je ne prends pas beaucoup de risques. Mais là encore, je me discipline, car si au final je regrette mon coup de cœur, hop, je rapporte la lampe ou la fringue et elle repart dans le circuit. Génial, non? Pour être tout à fait honnête, je vais très souvent à la ressourcerie, ce qui me permet de twister mes basiques pour pas un rond. Mais oh zut, maintenant que je vous ai confié mon secret, vous allez vouloir y aller et prendre sous mon nez ce vinyle collector, ce sublime pantalon en velours ou ce sac trop mignon en vrai faux croco. Oh mince, vraiment, quel étourdi je suis de vous avoir dit que la ressourcerie créative se situait avenue du Général Leclerc. Non, vraiment, je suis incorrigible. Un secret pareil, ça se garde.
Déshabillez-moi.
Allez, je vous charrie là, c'est tout sauf un secret, et plus nous serons nombreux à y aller, et mieux la planète se portera. Comment? Vous n'y avez jamais mis les pieds? Vous pensez que c'est une sorte de braderie? Pas du tout. Allez hop, suivez-moi, je vous emmène, on va rencontrer quelqu'un de super. Elle s'appelle Sabine Arondel, elle a de l'énergie pour 12 et elle est cofondatrice et coordinatrice de la ressourcerie créative située au 95 de l'avenue du Général Leclerc dans le 14e. J'arrive tout près de ma caverne d'Ali Baba préférée. Il y a déjà du monde, nous sommes samedi. Nous sommes sur une grande artère parisienne forcément bruyante. Mais je vois qu'il y a déjà énormément de monde qui guette à l'entrée. Et comme d'habitude, je sais que je vais devoir me frayer un chemin parmi le public nombreux qui vient chaque samedi dénicher comme moi des petites trouvailles, des pépites, des choses qui vont agrémenter leur vestiaire et le rendre un peu plus original que ce qu'on peut trouver dans les grands standards de la mode. Voilà, donc je suis impatiente d'une part d'aller à la ressourcerie, découvrir ce qu'il y a de nouveau, mais aussi, surtout, chers auditeurs, une surprise aujourd'hui, je vais rencontrer la responsable qui m'attend. Et dans quelques minutes, nous serons ensemble pour une super interview.
Déshabillez-moi.
Sabine, dans la série de podcasts Déshabillez-moi, tu sais qu'on essaye avec les auditeurs et les auditrices de changer nos réflexes vestimentaires pour rester stylés sans renoncer à notre envie d'une planète plus propre. Est-ce que les ressourceries sont une bonne alternative à nos envies compulsives de consommation?
Alors, impulsive, je sais pas, nos envies de consommation, ouais, c'est sûr. Faut garder quand même à l'esprit qu'il y a cette sobriété heureuse qu'on recherche tous. Mais en tous les cas, il est tout à fait possible dans les ressourceries de se faire vraiment plaisir et surtout, plus que la quantité, de trouver la qualité et de trouver des belles pièces qui sont pas accessibles à tous, mais qui là vont l'être. Et quand on a la chance de tomber sur la petite veste de la marque qu'on aime bien à sa taille, et ben c'est vraiment la fête.
Sabine, les ressourceries où l'on peut déposer et acheter des objets, des meubles, des articles textiles ont fait leur apparition un peu partout en France. Il y en a aujourd'hui environ 250. Mais leur vocation n'est pas toujours bien comprise. Elles sont même parfois confondues avec des solderies. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs sur quel modèle économique fonctionne une ressourcerie ?
Alors, une ressourcerie, il faut déjà savoir que on est des associations loi 1901. Donc l'idée de base, c'est de pas faire de bénéfices. Alors, on peut forcément, on est à l'équilibre. On doit être comment bénéficiaire dans le sens où on doit pouvoir payer nos charges. Et bon nombre de ressourceries ne sont pas logées par la commune, mais doivent avoir payé un loyer, comme c'est le cas de la ressourcerie créative. Et après, l'idée, c'est que on reçoit les dons. Donc, comme le nom l'indique, on nous les donne. Ensuite, nous, on a tout un cycle de valorisation, donc de tri, de remise en rayon, de tenue de la boutique, de communication, etc. Et on vend. Et ensuite, tout cet argent qui est créé, notre chiffre d'affaires, il permet de créer de l'emploi et de créer de l'emploi pour des personnes qui, très souvent, sont éloignées de l'emploi. Il y a pas mal de ressourceries qui sont en mode chantier d'insertion, donc dont la spécialité c'est vraiment l'insertion, mais même celles qui ne sont pas en chantier d'insertion, comme c'est le cas de la ressourcerie créative, on a en fait dans notre ADN cette volonté d'être au plus proche des gens. Et nous, par exemple, on a 80% de nos emplois qui se font à travers le bénévolat. Et les gens qui sont bénévoles à la ressourcerie, c'est des gens qui forcément qui ont du temps, mais qui ont du temps parce que ils sont au RSA, qui ont du temps parce que ils ont perdu un peu la boussole et savent pas trop quoi faire de leur vie. Et voilà. Et du coup, on choisit d'embaucher en priorité ces personnes-là parce qu'on les a rencontrées dans le cadre de leur action à la ressourcerie. Donc, dans une ressourcerie, on a 4 piliers. Donc, on a le don, donc la collecte, la valorisation, la vente et la sensibilisation. Donc, on a des salariés, nous, à chacun de ces stades et de ces étapes. Le premier contact qu'on a dans une ressourcerie, c'est l'accueil. Donc, nous, on a Didier, la ressourcerie créative, qui accueille les gens, qui pèse les dons, parce que notre unité de mesure, c'est la tonne. Après, on a 5 personnes qui sont responsables des pôles de valorisation par typologie de dons, donc textile, bibelot vaisselle, livres, tout ce qui est électrique, électronique, tout ce qui est affaires de sport, mercerie, enfin voilà. Et puis ensuite, on a une équipe qui s'occupe de la communication, une équipe qui s'occupe de la sensibilisation avec 2 personnes aux ateliers. On a aussi une personne qui est en charge de la collecte. Et après, on a une personne en charge de tout ce qui est RH et une personne en charge de l'administration et moi qui m'occupe du développement.
Et redis-moi, combien de personnes ça fait tout ça ?
Alors, ça fait 15 personnes, dont 11 à temps plein et 4 alternants. Autre truc important, c'est que en plus de nos 15 salariés, on a par jour à peu près 30 bénévoles qui se succèdent à la ressourcerie pour nous aider. Et on a aussi actuellement 3 services civiques. Et la ressourcerie ne fonctionnerait pas sans les bénévoles. Autour de chaque responsable de pôle, on a une petite dizaine de bénévoles.
Merci Sabine.
Déshabillez-moi.
Sabine, comment est-ce que une ressourcerie évalue son activité ? Quels sont les bilans que tu produis chaque année pour évaluer l'efficacité de la ressourcerie ?
Bon, alors, comme toute association qui se respecte, on a quand même un bilan financier. Mais ce qui est le plus important pour l'activité d'une ressourcerie, et surtout pour que ce soit comparable les unes des autres, c'est le nombre de tonnes qu'on a collectées et le nombre et le taux en fait de réemploi. C'est-à-dire, parmi ce qu'on nous donne, combien de choses on arrive à sauver et à remettre dans un circuit de consommation et d'utilisation. Et à la ressourcerie créative, on a un taux de réemploi de 81%.
Mais dis-moi, pourquoi mesurer en tonnes et pas en chiffre d'affaires ?
En fait, on mesure en tonnes parce que le prix dans une ressourcerie, il n'est pas représentatif du travail qu'il y a derrière. On peut très bien avoir été collecter un canapé au 6e étage d'une maison et puis le vendre 40 euros. Et on peut très bien, à la ressourcerie créative, on le vend pas très vite, et ben on va le mettre à 20 euros. En fait, nous, notre problématique, c'est la place. Et du coup, on n'a pas du tout de stock. Il faut que tout ce qui rentre ressorte aussi vite. Enfin, le volume qui rentre soit équivalent au volume qui sorte. Donc, parfois, par exemple, on a été amené à faire un vêtement acheté, 2 vêtements offerts. Parce qu'on avait tellement de dons et tellement de choses comme ça qui rentraient qu'il fallait que ça sorte aussi vite. Depuis l'ouverture, on ne cesse de voir de plus en plus de gens venir vers nous. On a aussi déménagé. On est maintenant dans un endroit qui est beaucoup plus passant qu'avant. Mais en tous les cas, là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent à la ressourcerie. On a à peu près à 300 passages caisses par jour.
Et quels sont les nouveaux publics que tu as identifiés ?
Ça, c'est, on pose souvent la question, mais j'ai vraiment du mal à répondre à cette question. Peu de temps après l'ouverture de la ressourcerie, on avait fait une étude pour savoir quel était notre public, et on s'était rendu compte qu'on était vraiment sur un public et des usagers très hétérogènes, que ça allait de la personne hyper militante, même avec beaucoup de moyens, mais qui était à fond dans l'écologie, à des étudiants qui étaient vraiment pas fortunés et qui venaient chercher de quoi s'habiller et puis s'équiper. Donc en fait, il y a vraiment de tout. Mais cette étude, elle avait montré aussi que la première motivation, ce qui était cité en premier à la question « Pourquoi vous venez à la ressourcerie ?», c'était un lieu convivial. Donc c'est sympa.
Dis-moi Sabine, comme je suis une fervente utilisatrice de la ressourcerie depuis longtemps, j'observe de plus en plus d'hommes de tout âge et de toute nationalité qui viennent, seuls ou en couple, se choisir un costume ou une veste, et la petite cabine d'essayage que vous avez installée ne désemplit pas. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ?
Alors, je suis pas aussi j'ai pas constaté forcément ça, la même chose, mais ce que je vois, c'est que notre rayon vêtements hommes, il s'étoffe. Il est beaucoup plus petit que celui des femmes, mais il s'étoffe. Et je vois effectivement des hommes qui prennent le temps d'essayer, qui demandent des conseils et qui effectivement réussissent à se trouver des pièces à leur goût. Ouais, ça c'est fréquent.
Déshabillez-moi.
Sabine, s'habiller en seconde main, est-ce que c'est devenu aujourd'hui normal, tendance, nécessaire, militant, tout ça à la fois ?
Bah ouais, tout ça à la fois. Et puis en plus, c'est économique. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Et certaines personnes vont chercher le petit surplus qui leur fait vraiment plaisir, comme je disais tout à l'heure, une petite veste de marque, un joli foulard, ou alors un accessoire pour une soirée à thème, enfin des choses comme ça, du surplus. Mais il y en a qui viennent vraiment s'habiller de façon régulière et qui revendiquent d'être 100% en réemploi. Et ça, c'est de tout âge et de tout milieu, ouais. C'est sûr que, en tous les cas, c'est sûr que c'est rentré dans les mœurs.
Dis-moi Sabine, il y a forcément des produits qui te restent sur les bras. Qu'est-ce que tu en fais ? Surtout les produits textiles, qu'est-ce que tu en fais ?
Alors, on fait des opérations qu'on appelle opération coquelicot. Ça, c'est le jeudi. Donc, le jeudi matin, fin de matinée, après notre réunion, avec Nana, qui est la responsable de tout le rayon textile, elle va dans le rayon avec des grands sacs rouges, d'où l'opération coquelicot, et en fait, elle enlève tous les trucs qui sont là depuis trop longtemps. Donc, elle sait et elle les enlève. Et ensuite, ces sacs, on les laisse dans notre atelier tout le jeudi, et chacun a le droit de se servir. Donc, c'est une façon, nous, de remercier nos bénévoles. On a des bénévoles de tous les milieux, mais on a aussi des bénévoles qui sont dans des foyers d'accueil, des personnes migrants qui n'ont pas du tout de moyens, pas du tout d'allocation. Et du coup, c'est une façon pour elles de se vêtir sans dépenser d'argent. Voilà, donc ça, c'est notre première façon d'écouler les choses qu'on ne vend pas. Et ensuite, sinon, il y a même des choses qu'on ne met même pas en rayon parce que hors saison ou un peu trop abîmées, enfin voilà, ou qu'on a déjà trop de choses dans les rayons. Ça peut être le cas des jeans, par exemple, des fois on en a trop. Dans ces cas-là, on a une association qui s'appelle Améliore, qui est l'association des bifins, et eux, ils viennent deux fois par semaine. Et ils emmènent, je sais pas, au moins 4 mètres cubes de sacs avec que du textile dedans. Donc, et eux, ils font des ventes sur des petits marchés où en fait, ils vendent directement aux usagers. Et ce qu'ils n'arrivent pas à vendre, ils le mettent dans des filières de recyclage. Donc, c'est vraiment notre partenaire pour le textile.
Déshabillez-moi.
Petit cadeau pour nos auditeurs et nos auditrices, Sabine a quelques astuces à nous communiquer pour pimper nos vêtements en ressourcerie.
Bon, alors, ce à quoi je pense, c'est les boutons. Parfois, changer les boutons d'une veste qui est un peu terne ou je sais pas quoi, ça peut déjà hop lui donner une seconde vie et beaucoup d'éclat. Ou une veste où tu as perdu juste un seul bouton, Voilà, ça c'est une première chose. Et des boutons, on en a des boîtes et des bocaux entiers. Après, on n'a pas tous, mais parfois, en ressourcerie, on a la chance de tomber sur le petit pull en cachemire qui nous plaît, qui est bien à notre taille, etc. Mais on constate qu'il y a un petit trou de mitte, enfin une petite maille qui est partie. Et ben là, en fait, moi, le conseil que je vous donne, c'est de le prendre quand même et après, de broder quelque chose à la place du trou. Alors, soit vous brodez juste le petit trou, soit vous rajoutez une petite déco qui va faire que ça va vraiment marquer votre pull. De toute façon, il sera unique et le cachemire, ça vaut le coup. Et après, un autre truc auquel je pense, c'est les t-shirts. Il y a plein de t-shirts qui sont dans des matières sympas, mais qui vont pas avoir une forme qui vous plaît. Et ben en fait, il est tout à fait facile avec des bons ciseaux de couper direct dans le t-shirt. Et en fait, quand c'est de la maille, ça file pas, ça s'effiloche pas. Donc en fait, tu peux prendre ton t-shirt qui est trop long, hop, tu te fais un petit top. Tu peux prendre des grandes manches, hop, tu les coupes. Et pareil pour l'encolure. En fait, tu découpes direct et ça s'effiloche pas parce que c'est de la maille. Voilà. Donc tu peux faire tout ce que tu veux.
Déshabillez-moi.
Sabine, je ne t'apprends rien. Aujourd'hui, on le sait, la fast fashion est un fléau. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs quelle proportion d'articles issus de la fast fashion passent entre tes mains? Entre les mains de la ressourcerie, bien sûr.
Alors, en fait, on a pas mal de trucs, de fast fashion, mais on a quand même pas le truc le pire du pire. Parce que je pense que le pire du pire, il tient pas à quelques lavages, donc il a pas le temps d'arriver chez nous. Mais, on a plein de trucs de toutes ces chaînes que j'ai même pas envie de nommer, mais ça, les trucs de chaînes, on en a plein. Et il y a même certaines personnes qui s'imaginent que c'est des marques. Donc dès qu'on a l'occasion, on leur dit que c'est pas des marques et on explique bien la différence avec une vraie marque. Après, donc ça, c'est surtout pour les vêtements femmes. Pour les vêtements enfants, on a moins de fast fashion parce que c'est pareil, ça tient pas une génération, donc on en a pas beaucoup. Et pour les hommes, on en a quasiment pas. On récupère surtout des costumes, des belles chemises, des beaux pulls dans des belles matières, mais voilà. Donc on en a peut-être, enfin si on doit donner un chiffre, je sais pas, c'est pas la moitié de fast fashion. En revanche, moi ce qui me marque, c'est plus les belles pièces, les trucs vintage impeccables. T'as même des fois des trucs vintage encore dans des emballages. Des fois on a eu des bas en soie. Voilà, là on peut trouver des petites pépites comme ça et c'est vraiment la particularité des ressourceries.
Sabine, porter de la fast fashion de seconde main, est-ce que ça annule son bilan carbone?
Franchement, j'aimerais bien, hein, parce que moi je suis habillée vraiment 100% seconde main. Bah non, en fait ça participe beaucoup, mais après non, faut pas oublier de faire tout le reste et mais je pense que après on peut, comme on n'est pas surhumain non plus. Moi, je prône l'écologie plaisir et se faire plaisir, c'est déjà, tu vois, ça peut être un geste écologique quand tu achètes de la seconde main. Donc voilà. Et puis je me dis que si pour la transition écologique, on commence tous par faire le truc qui nous fait plaisir. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup le vélo, mais ça me fait plaisir. Plutôt que d'être dans le côté écologie, tu vois, punitive et qui agite des craintes. Eh ben, si déjà tout le monde faisait le truc qui lui fait plaisir, qui est écolo, je pense que déjà on avancerait dans la transition écologique. Plutôt que d'attendre qu'on soit tous exemplaires pour lancer le mouvement. Moi, je pense qu'il faut y aller selon ses envies. Il y a t'as des gens qui peuvent pas se passer de prendre un bain, tu vois. Mais peut-être qu'ils prennent un bain je sais pas, tous les 15 jours. Mais en revanche, ils mangent pas de viande. Bah, à chacun de faire sa transition à son rythme et selon ses goûts. Et moi, je juge personne. Et voilà. Après, je pense quand même que pour que ça avance, il faudrait inciter davantage. Et quand je dis inciter, des fois, ça dépend de mes moments, mais des fois, j'ai envie de dire qu'il faut peut-être réglementer davantage aussi. J'ai entendu là une phrase, je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau, qui dit « Il faut forcer l'homme à être libre ».
Sabine, on va terminer sur cette magnifique phrase et je te remercie énormément de ce temps passé ensemble et de tout ce qu'on aura appris grâce à toi. Merci encore de toutes ces informations, c'était passionnant. À bientôt.
À bientôt, avec plaisir.
Chers auditeurs et auditrices, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié comme moi ce petit moment passé avec Sabine, coordinatrice de la ressourcerie créative du 14e. Un lieu convivial et plein de belles surprises que je vous invite à découvrir pour rester stylé sans vous ruiner. Vous avez aimé ? Retrouvez tous les podcasts de la série Déshabillez-moi sur le site de Dynamique Radio, la radio pour tous, ou retrouvez-moi sur PodCloud pour vous abonner. Chers auditeurs et auditrices, vous avez du style. Être soi, c'est déjà un style. Et n'oubliez pas, recycler, c'est stylé. Souriez, vous êtes stylé.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous ? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette. Le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.